Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Vignons des Oreilles, l'émission du vin et de la vigne de la région nantaise. Et oui, nantaise, car Nantes a un vignoble et pas des moindres, c'est même ce qu'on appelle un vignoble en renouveau suite aux diverses crises que la viticulture a connues dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, dans les pas des pionniers tels que Joe Landron, Marc Pénaud, Guy Bossard ou encore Jacques Carouget, beaucoup de vignerons, et ils sont de plus en plus nombreux, choisissent de faire du vin de façon différente, plus respectueuse de leur environnement, de leur santé et de la nôtre, en décidant de choisir des produits non issus de la chimie de synthèse et surtout, surtout, en diminuant, voire en supprimant les intrants ajoutés dans le vin lors de la vinification. Est-ce que vous me suivez ? Eh oui ! Ce mois-ci, dans les Vignons des Oreilles, on parle de vin naturel. Ça y est, le gros mot est lancé. Tout d'abord, un petit point sur comment on fait du vin. Je ne vais pas parler de viticulture, ça mériterait une émission à part entière, mais de vinification. Tout d'abord, quelques bases. Le vin est un produit fermenté, instable, issu du raisin. Pourquoi instable ? Parce que la forme stable ultime de cette fermentation, je vous le donne dans le mille, c'est le vinaigre. En tant que produit instable, le vin peut rencontrer au cours de sa fabrication quelques indésirables ou maladies qui modifient son goût, voire détruisent des cuves entières. Donc, tout l'art du vigneron va être de maintenir ce jus de raisin fermenté dans sa forme instable, que nous appelons vin. Et alors, comment fait-on pour stabiliser une matière instable ? On lui met des béquilles. Et pour cela, on n'a rien trouvé de mieux que le soufre, les fameux sulfites, utilisés sous sa forme d'anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre, autrement connu sous le doux sobriquet de SO2. Il faut savoir que l'utilisation du soufre dans le vin ne date pas d'hier. Il semblerait que c'est un procédé qui était déjà utilisé par les Romains pour faire voyager leur vin. En tout cas, les Hollandais, encore eux, le popularisent à partir du XVe siècle. Car même si on ne le savait pas encore, le soufre est l'outil parfait du vigneron. Il est antioxydant, l'oxygène est l'ennemi numéro 1 dans un vin. Il est antibactérien. Les bactéries peuvent développer des arômes de type vernis à ongles, écurie ou encore serpillière, donc généralement on préfère les éviter. En un mot, stabilisant. Vous me direz donc, quel est le problème alors ? Eh bien, le problème, c'est ce dont on ne parle pas. L'œnologie moderne, qui a vu ses débuts environ au milieu du XXe siècle, ne se contente plus aujourd'hui de corriger ou de prévenir les petites déviances du vin, elle encadre de façon systématique la vinification afin de standardiser la production et donc le goût. Un peu comme si vous étiez placé sous perfusion d'antibiotiques en permanence pour être sûr que vous ne tombiez pas malade. Et pour cela, les œnologues disposent d'une boîte à outils très largement fournie, ce sont les fameux intrants. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il est possible de rajouter dans un vin, mais ce sont plusieurs dizaines de produits, des levures au tanin, en passant par des copeaux de bois, du sucre ou encore notre fameux soufre, qui fait tant parler de lui. C'est d'ailleurs la seule substance qu'il est obligatoire de mentionner sur les étiquettes, à partir de 10 mg de sulfite par litre. Sachez tout de même que les sulfites sont naturellement présents dans le vin. Aussi, quand vous lisez sur une étiquette « contient des sulfites », cela ne veut pas forcément dire que le vigneron en a ajouté. Cette mention est obligatoire au-delà de 10 mg de sulfite, ajouté ou non, par litre. Pour cette émission, je suis partie à la rencontre de Johan Gillot, vigneron des vins jardinés à Monnières, Christophe Bosque, négociant éleveur de Vigny Libre à Clisson, Nicolas Prosper, qui est caviste chez Rouge Bouteille à Nantes, et une fois n'est pas coutume, bon, enfin pour la coutume on verra peut-être plus tard, j'ai eu le plaisir de rencontrer deux vignerons en même temps, Jacques Février du domaine du raisin à plumes et Philippe Chevarin du domaine Philippe Chevarin. Ils travaillent tous deux en étroite collaboration dans les Coteaux d'Anceny sur la commune de Houdon.
Depuis 50 ans, ils ont fait des études de la teneur en nutriments dans les aliments, quoi. Et il y a 50 ans, dans une tomate, il y avait 15 fois plus, enfin bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, il y avait 15 fois plus de nutriments que dans les tomates actuelles, quoi. Donc à un moment, il faut quand même se poser des questions. Est-ce qu'on fait juste du volume avec rien dedans, ou est-ce qu'on fait des aliments qui servent à nourrir, quoi. Donc, et bon, le vin, c'est quand même un aliment. Donc c'est pareil, quoi. Dans les mêmes problématiques.
Ben, le vin naturel, c'est, C'est ce qu'il y a de plus simple. Si on prend du raisin, ça fermente et on a du vin. Il ne faut pas aller plus loin.
À la base, le vin était la boisson qui était plus saine que l'eau parce que l'eau était impropre à la consommation. Et donc le vin, on préférait boire du vin parce que c'était fait sainement et ça avait été juste une boisson fermentée. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus saine que l'eau des fois chez certains vignerons. Sur, on va dire, 90% des vins, peut-être même 95%, c'est plus du tout un produit naturel. C'est pas du vin fermenté. Enfin, c'est pas du raisin fermenté. C'est une base de raisin qui a été, avec, je sais pas, peut-être 40, 50 produits d'ajoutés. C'est pas... c'est 90% des vins qui sont comme ça. Hein, qui sont faits techniquement et chimiquement. Et en vin naturel, on représente même pas 2 à 3% du vignoble... français.
On bénéficie d'une exemption assez hallucinante où on n'a pas besoin, enfin, dans le vin, qui est un produit alimentaire, est le seul produit alimentaire où on n'a pas besoin de mettre le listing des produits qu'on met dedans. Je m'appelle Christophe Bosque, j'ai 52 ans, j'habite à Clisson. Mon métier principal maintenant est négociant vinificateur éleveur. Je suis aussi importateur de vin nature et je finis une carrière d'agent commercial. Faire du vin naturel, pour moi, ma définition à moi, moi j'ai pas inventé grand chose. C'est juste revenir aux origines du vin, avant la mécanisation, avant l'industrialisation. Le vin, les premières traces de vinification qu'on connaît, c'est il y a 8000 ans. L'apparition de la chimie dans le vin, on va dire que c'est au fin du 18e, où ils commencent à mettre des sulfites. On sait que les Romains souffraient, méchaient les amphores et les barriques, quoi. Et on va dire que ça commence vraiment sérieusement début du 19e, et puis avec le 20e, où ça accélère très très fort, avec surtout le sortir de la Seconde Guerre mondiale, quoi, où on a plein de molécules, on a les tracteurs, enfin toute la mécanisation. Sauf que maintenant, on est plus riche de techniques. C'est Pasteur qui a découvert les levures. Avant, c'était fermentation spontanée, on savait pas. Certains pensaient que c'était de la magie. On savait pas. Maintenant, on sait tout ça. On fait des analyses microbiologiques. On goûte, on est pointu. Moi, je pense qu'on n'a rien inventé, qu'on refait ce que faisaient ce que les autres faisaient avant. Hein. Un cas d'école, c'est le propriétaire de mon chai qui me le loue. Que je remercie beaucoup au passage. Il s'appelle Jean-Noël Couillot. Spécial dédicace. quand je lui ai fait goûter les melons de Bourgogne non sulfités, non filtrés et tout, il m'a dit, mais c'est les vins de mon enfance, en fait. Et c'était une époque où il travaillait au cheval, où il mettait que de la bouillie bordelaise et du soufre, et basta, quoi. Donc je pense vraiment qu'on n'a rien inventé. Hein. On refait les vins qui étaient faits avant avec plus de techniques. Hein.
Après, comment définir ce style de vin? Ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a deux métiers, il y a viticulteur et vinificateur. Alors moi c'est Nicolas, la cave c'est Rouge Bouteille, et on est une cave à vin, bar à vin, cave à manger sur Nantes, dans le quartier Zola. Et dans ces deux métiers, on peut travailler avec des adjuvants, avec des artifices, voilà.
Bah, une vinification conventionnelle, c'est-à-dire qu'on a un armada de produits ou de possibilités de filtres tangentiels, ou de, on peut acidifier, désacidifier, on peut rajouter des tanins, enfin le catalogue est énorme, hein, je l'ai pas en tête et puis il y a longtemps que j'en ai pas consulté un, mais ça veut dire qu'on peut vous faire du vin à façon, quoi. C'est-à-dire vous prenez le même raisin, avec le même raisin, je vous en fais un gouléant, un autre boisé. Et on peut corriger tout de A à Z, quoi.
Quelque part, tous ces produits, c'est un nettoyant, quoi. Quand on nettoie tout, quand il n'y a plus rien, après, il n'y a plus de vie, quoi. Donc je m'appelle Philippe Chevarin, le nom du domaine, c'est Philippe Chevarin, en toute modestie, voilà. Je suis à Oudon, à Blanchelande, exactement. C'est quand même la vie qui est à l'origine de... des fermentations, c'est comme... La fermentation, c'est un principe du vivant qui existe depuis des millions d'années. Donc voilà, pour moi, c'est important de garder cette énergie-là, quoi, en tout cas. Parce qu'après, le fait de mettre des levures sélectionnées, c'est juste un palliatif, quoi. C'est-à-dire qu'on tue tout et après on remet de la vie, mais de façon artificielle. Donc la vie artificielle, c'est pas la vie, quoi.
Si on n'utilise pas le terme nature, on utilise souvent le terme vin propre ou sans chimie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le raisin, il est cultivé, comme je disais, sans herbicides, insecticides, sans désherbant, tout simplement, comme le Roundup fait avec du glyphosate, notamment. Bon, ça existe. C'est-à-dire que vous allez dans les vignes, à une certaine période de l'année, au pied des vignes, c'est orange, quoi, parce que les viticulteurs ont mis du Roundup et pour enlever l'herbe.
Non, à la base d'un vin naturel, ça serait déjà une culture minimum en biologique, certifiée, ce qui est pas mal. Et ensuite, au niveau du travail du chai et de la personne, c'est accompagner le vin. Moi, voilà. Et on peut avoir des déviances, mais il faut savoir intervenir au moment, mais le laisser faire et avancer avec lui, quoi. C'est comme un enfant, on l'accompagne et il y a des fois, il fait des bêtises et on avance et on va apprendre à faire ensemble, quoi. C'est tout, quoi. Et donc, Jacques Février, le domaine s'appelle le Raisin à Plumes. On est basé à Oudon également, sur un domaine de 5 hectares et demi.
Voilà, c'est une autre façon de faire le vin. C'est une autre façon d'exprimer les goûts du raisin. Et la différence, c'est de laisser parler les levures indigènes et d'essayer de contrôler cette vinification au plus près de sa vinification naturelle. Et d'intervenir le moins possible. Ça, c'est le cahier des charges rêvé, quoi. Après, dans la réalité, parfois, y a des accidents, il y a des choses qui se passent qui font qu'on est obligé d'intervenir. Mais bon, l'idée, voilà, c'est de laisser faire en contrôlant, quoi.
Je pense qu'on ne devrait rien marquer sur les... On devrait pas avoir de nom, enfin, d'identité à donner sur les vins qu'on a ici, mais par contre dire que les autres vins sont conventionnels et sont pas bons pour la santé, enfin, pas bons pour la santé, mais enfin, tu vois ce que je veux dire.
Le vin naturel, moi, ça s'est pas imposé du jour au lendemain. Il y a eu un basculement à un moment, mais ça m'a posé de graves problèmes intellectuels et parce que j'avais une formation technique dans le Muscadet, parce que j'avais fait de l'œnologie moderne et que je pensais sincèrement que c'était très compliqué de faire du vin sans y coller au moins quelques centaines de grammes de levure et du sulfite, quoi. Sinon, on allait à la catastrophe, quoi. Ben, c'est en fait une connerie, hein, qu'on apprend encore à tout le monde à l'école, quoi. On peut faire sans, quoi. Le sulfite, c'est un couteau suisse, en fait, hein. Ça a trois grandes vertus, c'est un antibactérien, un antilevurien et un antioxydant. Donc c'est quasiment le truc parfait pour vinificateur qui a pas trop envie de se prendre la tête, quoi. Voilà, comme ça tu mets du sulfite là, t'en mets à la vendange, t'en mets partout, comme ça voilà, t'en mets partout. Voilà, comme ça le vin il bougera pas et tout. C'est plus compliqué que ça, parce que s'il suffisait que de mettre des sulfites pour faire du bon vin, on saurait tous faire des bons vins et ça serait génial. Le sulfite, il faut savoir en mettre, je pense, par moment. Si une cuvée part en vrille et qu'il faut mettre 1 ou 2 grammes pour pas perdre la cuvée, moi, je suis pour conserver la cuvée, quoi, et tant pis. Par contre, le dire au consommateur...
Est-ce qu'on en met pas ? Est-ce que c'est prendre un risque ou pas ? Ce qui amène à ce choix, c'est aussi une sécurité, quoi. Donc, Johan Gillot, les vins jardinés sur la commune de Monnières, donc le vignoble nantais. Je suis installé depuis 2018, avec 4 hectares, donc 3 hectares de melon de Bourgogne, 1 demi-hectare de gamay et 1 demi-hectare de folle blanche. Du coup, un mois avant la mise, j'ai mis 1 gramme de soufre, ouais, 1 gramme pour 100 litres, ouais. Sur les cuvées. C'était une question assez difficile. Je pense aussi vite se décomplexer avec ça, d'une certaine manière. Parce que au final, Il y a aussi voilà, une question économique quoi, derrière. Ça a été fait aussi parce que les conditions dans lesquelles j'ai la cave sont assez compliquées, dans des endroits où j'ai des cuves qui sont absolument pas isolées. Voilà, c'était des craintes aussi personnelles, quoi. Voilà, avec des cuves à chapeau flottant qui prennent un peu l'air, etc. C'était la première année que je faisais du vin. Après, un gramme en soi, c'est je pense, assez tolérable, quoi.
Tous les ans, on a peur. Ça part, ça fait pas ce qu'on veut et ça fera jamais ce qu'on veut, mais c'est oui, tous les ans, on est sur le pied de guerre et on a la chance d'être à deux pour... Enfin, on ne travaille pas ensemble, on a deux domaines différents, mais on est toujours à passer du temps, à goûter ensemble et à se rassurer l'un et l'autre, et ça marche comme ça. On a tout le temps peur. Mais comme j'ai entendu dire, quand on veut faire du vin naturel, il faut déjà apprendre à bien dormir. C'est la base. C'est de passer un hiver tranquille, ça n'arrive pas souvent, quoi. Il faut apprendre.
Sachant que sur les blancs, la moyenne en France, enfin, peut-être on va parler pour l'appellation muscadet, on doit être au moins à 6 grammes ou 7 ou 8, je ne sais pas trop, mais ça doit être dans ces ordres d'idées-là, quoi. On ressent qu'il y a, gustativement, ça met du temps à... Quand on met ça, ça met du temps à s'intégrer et ça déstructure un peu et gustativement, ça change jusqu'à se recaler. Alors le souffle peut disparaître au fur et à mesure du temps. C'est des combinaisons chimiques à l'intérieur, etc. du vin qui fait que ça se combine, ça se recombine et du coup, la partie libre du soufre va disparaître. Ouais.
Parce que le soufre, en fait, quand on goûte nos vins qui sont non soufrés en cuve juste après les vinifications, voilà, on a une certaine expression du fruit et du millésime. Et à partir du moment où on met du soufre dedans, bah, le vin, il n'est plus du tout pareil, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas une histoire de, on va dire, de par rapport à la chimie ou quoi, c'est juste que ça change le vin, quoi. Vraiment, ce serait un produit naturel qui ferait la même chose, j'aurais autant de réticence à en mettre, quoi. Parce que, du coup, le vin, il est plus tout le même après. Et alors après, voilà, des fois, certains vins ont besoin du soufre pour être stabilisés, pour pouvoir après être vendus et pour pouvoir être stable dans le temps et voilà, et toujours être agréable à la consommation. Mais il faut savoir quand même que le soufre, c'est quand même un truc qui n'est pas neutre, quoi, et qui change vraiment le profil organoleptique du vin et sa structure. Et ça, voilà, donc, moi, pourquoi je suis allé vers les naturels, c'est une histoire de goût.
Puis on revient peut-être à quelque chose de plus authentique maintenant. On cherche des légumes qui ont du goût, on cherche des fruits qui ont du goût, on cherche à manger qui a du goût aussi, puis à boire qui a du goût et qui n'est pas trafiqué, quoi.
Le vin naturel, en tout cas les expressions des vins qui sont sensibles et qui sont sincères, sont en train de conquérir le monde, quoi. Sur les plus grandes tables, chez les plus grands sommeliers, c'est en train de conquérir le monde, quoi. Voilà, donc c'est le job, il se fait tout seul, quoi.
À partir du moment où j'ai goûté des vins naturels... voilà, j'ai pas trouvé ça forcément bon tout de suite parce que c'est un autre goût, quoi. Il faut se refaire à un autre référentiel de ce que c'est que le vin. Mais quand on est une fois qu'on a compris un peu à quel point ça peut être magique, un vin fait naturellement avec des levures indigènes, avec zéro intrant ou quasiment rien, bah, après on peut plus revenir en arrière, quoi. On n'a pas du tout le même ressenti, la même émotion en buvant un vin naturel qu'en buvant un vin, on va dire, de classique, avec des levures sélectionnées, du soufre et tout un tas d'artifices qui font que c'est l'émotion, elle est plus là, quoi.
Pour moi, là, le maître mot dans le vin, c'est la vibration et l'émotion, quoi. Au-delà de tout l'aspect technique, moi, un vin qui me donne de l'émotion, qui me fait vibrer, ça s'explique pas par des mots, hein, de toute façon. Tout ce qui concerne les zones du cerveau, qui concerne le goût, le sentir, c'est lié à des souvenirs et des émotions. Et il faut savoir goûter avec son corps, parce que c'est important, pas qu'avec sa tête. Et il y a des vins qui vous parlent, quoi, comme une musique, ou comme un livre, ou comme une femme, ou comme un voyage, ou un paysage. Des fois, on va scotcher, quoi. Ben, moi, c'est ça que je cherche dans le vin, c'est être scotché, quoi. C'est avoir les poils, Voilà. Pour moi, un grand vin, c'est ça. Et puis, c'est assez simple. Hein. C'est, on pose la bouteille, on discute joyeusement avec des amis, et puis, pouf, elle est vide. Ça, c'est un grand vin.
Moi, il griffonne pas.
Bonsoir. Bonsoir.
Salut.
Oui. J'arrive le matin au bistrot du coin. Je m'installe sagement, l'âme sans tourment. J'ai plein de trucs à faire qui pourraient me rendre fier. Je commande un café pour me réveiller. Je brûle une cigarette, mais bientôt j'arrête. Je me frotte les mains, c'est maintenant, demain. Je vais pouvoir me construire un bel avenir. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Je commande un verre, son petit frère. Un pour la route, un pour le retour. M'accroche au bar, c'est là qu'on se marre. Je parle d'amour à des gens sourds. Arrive le soir, je peux plus boire, me suis vautré. Encore raté, j'y peux rien. C'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est la vie en vis qui se fout, mon avis. Pourtant dans mon ventre aujourd'hui, je rencontre. J'ai la tête en fleurs, elle me voit, elle meurt. D'amour va sans lire, pour elle je peux mourir. On s'accroche les yeux, puis on fait des vœux. Nous deux ça sera grand, moi jamais je mens. Confonds-toi en moi, je suis fondu. Toi mon petit canari, je t'emmène à Paris. Mais là je sais pas ce qui se passe, car sur la route là je me rends compte pour que quand même, je vaux pas la peine, elle est trop bonne, elle doit être conne. J'ouvre la portière, puis au derrière ma petite amie est embrouillée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'aimais. Je veux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, hein, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis. Suis toujours à faire une chose, le contraire. Je sais pas ce qui se passe, je dois être à la masse. Mon vouloir se meurt, monsieur le docteur. Et vous allez m'aider, j'aurais vous payer. Je veux qu'une seule chose, c'est que ma tête se repose. J'ai plutôt dans le fond un gentil garçon. Moi je veux y parvenir à mon bel avenir. Mais là, je sais pas ce qui se passe, ça sert à rien, dit le médecin. C'est chez vos larmes, rouge cette dame, voyez les balles, ça peut faire mal. La croise la tête, y'a en fait une tête, la main à terre, sa gueule à terre, y'est mal barré.
Je le dirai.
Tu peux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, rien, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis.
Une des grandes fiertés françaises, c'est son terroir. Et ce terroir est encadré par l'INAO, Institut National de l'Origine et de la Qualité, au travers des appellations d'origine contrôlées. Et si les vins naturels dérangent, c'est aussi parce qu'ils vont à contre-courant du principe fondateur des AOC, des usages locaux, loyaux et constants. Les vignerons du vin naturel font des vins qui leur ressemblent. Ils réinventent ces usages en se targuant aujourd'hui d'être les vrais expresseurs, si vous me permettez l'expression, du terroir. Ils ne veulent plus coller au goût uniformisé de l'AOC, ils veulent s'amuser, expérimenter, bref, sortir des cases, quitte à en fâcher quelques-uns. Ces enfants terribles mènent cependant leur barque et séduisent un public de consommateurs de plus en plus large et averti. On entre en vin naturel comme on entre en religion. Il faut dire adieu à sa vie d'avant, sans espoir de retour, mais avec le sourire, embrasser une nouvelle philosophie.
Je ne travaille pas en appellation. Je travaille, tout est en vin de France. Pour des raisons assez simples, c'est pour garder une liberté de faire dans mes choix à la cave, pour rester libre sur ces choix-là.
Moi, quand j'ai commencé, ça me paraissait compliqué d'être en vin d'AOC par rapport au vin que je voulais faire, en sachant que les AOC, il y a des limites d'acidité volatile, il y a tout un tas de contraintes qui, à mon sens, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas maîtriser. Donc j'ai préféré pas présenter mes vins à l'AOC. Et puis, après, en connaissant un peu plus le système des AOC, j'ai pas... Enfin, par rapport à la façon dont je conduisais mes vignes et la façon dont je faisais mes vins, j'ai pas trouvé quelque chose qui me rapprochait foncièrement de l'AOC, quoi. Donc, j'ai préféré rester en France.
Et moi, je suis tout en vin de France également. Première année, quelqu'un est venu visiter les vignes parce que pour voir la cave, comment elle était entretenue et voir comment étaient les vignes entretenues. Et quand on m'a dit qu'il y avait un petit peu trop d'herbe pour avoir l'AOC, rien que par ça, déjà, ça m'a un petit peu embêté. Donc voilà, j'ai vite décidé et puis ça a été simple et efficace.
Bah, j'ai été dégustateur à un moment pour les agréments du Muscadet. C'est Romain Maillet qui m'avait formé, qui est un type que j'aime beaucoup. Et à l'époque, quand j'ai été formé, les Muscadets, il n'y avait pas de malot dessus. Alors c'est un petit truc technique et tout, mais les initiés comprendront, je vais vous épargner c'est la deuxième fermentation du vin, quoi. Et tous mes vins, moi, là, sur les melons de Bourgogne, la malot, elle est faite. Donc il y a 6-7 ans, si j'avais goûté mes propres vins, en appliquant le cahier des charges du Muscadet, j'aurais été obligé de virer mes propres vins. Donc vous voyez, c'est un peu schizophrénique, quoi. Donc j'ai arrêté de déguster les vins du Muscadet, et puis j'ai décidé de faire comme moi j'avais envie, quoi. Voilà, parce que donc le principe pour bloquer cette malo, souvent, c'était de mettre du sulfite dedans, quoi. Donc mettre un produit exogène pour coller à une AOP ou une AOC, je trouve ça complètement délirant, quoi. C'est hallucinant. Ça ne devrait pas exister.
Dans les formations de cavistes, moi, j'avais appris que les appellations d'origine contrôlée avaient été créées pour éviter aussi les trafics. Donc, on revient un petit peu, on essaie de partir un peu de des appellations d'origine contrôlée, c'est-à-dire des cahiers des charges. Et en même temps, ça a servi aussi à éviter le trafic. Mais ça a peut-être aussi uniformisé, quoi, un peu. C'est-à-dire que chaque année, il faut mettre tant de pourcentage de tel raisin avec tel pourcentage. C'est peut-être un peu chiant, quoi. Alors que le vin, c'est peut-être encore autre chose, c'est peut-être différent. C'est peut-être en fonction de l'année. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ce que nous donne la nature, quoi.
Enfin, un cahier des charges sur des appellations, c'est très généraliste, pour le coup. Si on regarde les terroirs du Muscadet, enfin la zone d'appellation du Muscadet, il y a énormément de terroirs, énormément d'arômes différents d'un terroir à l'autre, de typicités différentes d'un terroir à l'autre. Et je trouve que ça peut... pour obtenir un muscadet qui va être satisfaisant à la dégustation, pour obtenir l'appellation, ça resserre ça resserre un peu les goûts, quoi. Parce qu'au final, moi, ce que j'ai fait, ça reste du melon de Bourgogne cultivé sur des parcelles qui pourraient être en appellation, en élevage sur lit. Tout est fait ici, vinifié ici, dans la région du vignoble. Pour le coup, dans l'idée, on pourrait se dire, oui, c'est forcément l'appellation muscadet. Mais pour le coup, je pense qu'il peut y avoir certaines manières que j'ai de travailler qui donnent au vin certains goûts qui vont pas plaire. Et du coup, voilà, ça resserre aussi les goûts et le savoir-faire, quoi. Il y a une restriction là-dessus. Moi, ça me dérange, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai pas forcément envie de ça, quoi. Rester libre.
Parce que déjà, moi, je pourrais jamais dire que mes vins sont typiques des Coteaux d'Ancy, parce que Coteaux d'Ancy, c'est le nom de l'appellation. Et comme je suis en vin de France, je peux pas dire que mes vins sont typiques de l'appellation Coteaux d'Ancy. Après, moi, je peux dire que mes vins sont typiques des terroirs sous lesquels ils sont cultivés, c'est-à-dire la commune de Houdon, ou le pays Nancy éventuellement, mais Coteaux d'Ancy, c'est un terme qui appartient à l'appellation, donc déjà, je peux pas l'utiliser, quoi. Donc après, est-ce qu'ils sont typiques? Oui, pour moi, ils sont typiques parce que c'est moi qui les fais, même si moi, j'habite pas forcément là, mais voilà, mes vignes, elles sont là, les micro-organismes que j'utilise pour les faire, ils sont là, donc pour moi, oui, ils sont typiques d'ici, quoi. Et puis, après, moi, j'ai pas un gros recul. Ça fait 5 ans que je fais du vin, mais au bout de 5 ans, là, je commence à avoir à peu près quelques idées sur un peu comment sont les vins qui sont issus de mes parcelles, quoi. Après, c'est mes parcelles, c'est pas les parcelles de Jacques, c'est pas les parcelles des voisins, enfin, voilà. Mais globalement, oui, je commence à avoir une certaine identité sur les vins, mais pas de Coteaux d'Ancy. Puisque Coteaux d'Ancy, c'est comme s'il y avait un petit R entouré d'un rond. Hein. C'est une trademark, ça appartient à l'appellation. Et moi, je ne fais pas partie de l'appellation, donc je ne peux pas utiliser ce mot-là.
Moi, je fais des vins qui me semblent honnêtes par rapport à où est-ce qu'on est, avec les rendements qu'on fait en fonction de chaque année. Mais on ne peut pas être en appellation, comme disait Philippe, parce qu'on est en vin de France. C'est voilà, il y a une réglementation sur les vins d'appellation. Nous, on n'est pas dedans. Ensuite, je pense pas démentir sur ce qu'on fait sur la commune d'Oudon, quoi. Ensuite, ça représente ce que moi j'ai envie de faire plutôt.
Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit, c'est qu'il dit voilà, ça m'a fait. Enfin, il dit voilà, c'est les vins que j'ai envie de faire. Et c'est en ça aussi que le terroir, c'est pas que la terre et l'aire d'appellation et les parcelles, quoi. C'est aussi le vigneron, quoi. Le vigneron fait partie du terroir, enfin, à mon sens, en tout cas. C'est les vignerons qui construisent le terroir. Le terroir, il parle de ça aussi, parce que des vignerons qui ont su exprimer quelque chose de ce terroir, quoi. Enfin, de cet endroit-là, quoi, en tout cas.
C'est le contraire du bordelais, quoi. En gros, c'est... nous, on est sérieux dans la bouteille, et par contre, à l'extérieur, on est très con, quoi. Bah, voilà. Donc, on met pas 14 molécules, 150 millilitres de soufre par bouteille sur des sols morts avec des raisins exsangues, et qu'on est obligé de corriger avec 30 produits... au chais et un onologue de compétition voilà, qui s'appelle Michel R, faut pas le nommer. Bon, ça va m'en faire des procès. Hein. Merci pour tout.
J'ai eu pas mal de mal à boucler cette émission, car il y a beaucoup, beaucoup à dire sur le vin naturel. Je n'ai pas parlé des odeurs de paix de lapin, je n'ai pas parlé de la vie secrète des levures, je n'ai pas parlé de la nouvelle charte des vins naturels qui a vu le jour à l'automne dernier, ni du miracle de la cuite sans mal de crâne. Peut-être qu'un deuxième volet leur sera consacré. Merci à Johan Gillot, Christophe Bosque, Nicolas Prosper, Jacques Février et Philippe Chevarin. C'était Les Vignes ont des oreilles, une émission de Pauline Roy. Si tout se passe bien, on devrait se retrouver le mois prochain. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de la radio jetfm.fr. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un très bon week-end sur Jet FM.